Et là, vous allez attaquer un cycle, tour à tour. C'est une du 21e siècle, du 20e siècle, à cheval sur les deux siècles.
Bah, par essence, oui, parce que non, elle est écrite au 21e siècle quand même. À 60 ans, je sais pas si on renouvelle complètement ce qu'on est en train de faire. C'est pas ça le problème, on approfondit plutôt. Donc, effectivement, les principes d'écriture, je pense que c'est des principes d'écriture qui sont du 20e. Il va jusqu'où le 20e? Jusqu'en 2000, c'est ça?
Petit 20e ou grand 20e?
Voilà, plutôt des principes d'écriture qu'on connaît depuis les années 90, je dirais, grosso modo, ce genre de mélange dont je vous parlais tout à l'heure, de rythmisation de musique qui sont faites sur le timbre au départ. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est né dans beaucoup de pièces des années 90, je trouve, beaucoup de pièces. Quelques compositeurs se sont intéressés à ce sujet. Les premiers Magnus Lindberg, à une certaine époque, des gens comme ça. Et puis, je pense à la jeune génération comme Mauro Lanza, qui travaille sur la rythmique en même temps que le spectre et des réflexions. Le spectre ou des objets harmoniques complexes, disons, plutôt que parler de spectre qui est un peu restrictif. C'est vrai que moi, à mon âge, je m'intéresse moins à ce problème de savoir si c'est la musique va proposer quelque chose de nouveau, plutôt qu'à se dire est-ce que c'est l'organisme que je suis en train de construire est un organisme singulier pour moi-même, mais pas historiquement. Je m'en fiche un peu. Ce que je veux dire, c'est est-ce que cet objet-là, il va faire une heure quand même? Est-ce que formellement, il propose des solutions qui marchent? Est-ce que vraiment, est-ce que tout est compréhensible malgré la complexité du discours? Est-ce qu'on s'ennuie jamais? Est-ce que ça fonctionne? C'est plutôt ces problématiques-là que je me pose. Et je laisse volontiers la question de la modernité à mes jeunes amis qui ont 25 ans et 30 ans. Je trouve que c'est vraiment leur boulot, mais dans tous les domaines, hein, sans rigoler. Je le pense aussi, on parlait tout à l'heure de monter une radio, fonder une revue, etc. C'est leur job. Je crois que je me permets aujourd'hui d'approfondir les choses qui sont mes obsessions. Écoutez, sans comparaison aucune, ce serait prétentieux, mais quand Berg, Webern et Schoenberg allaient écouter les dernières pièces de Mahler, c'est très instructif ce qu'ils en disaient. Ils laissaient tomber leur travaux esthétiques 5 minutes pour écouter ça. En sortant, ils disaient « Waouh, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire ». Moi, si je vais écouter une pièce de Boulez, j'y vais en courant pour voir ce qu'il va faire. Et je me pose pas la question « Est-ce que c'est nouveau, pas nouveau ?» Je sais bien que Pierre Boulez, quand il composait les dernières pièces importantes qu'il a composées, c'était nourri de toute sa vie et qu'il n'allait pas tout bouleverser dans les 5 minutes qui suivent. Donc je pense que même électroniquement, je me pose pas des questions en ce moment de dire « Est-ce que je vais mettre des capteurs, des machins, des trucs, etc. ?» Peut-être que je le ferai un jour, d'ailleurs, si je vis encore, mais pour l'instant, je me suis dit comment cette électronique peut s'insérer dans le tissu orchestral, peut fonctionner avec, sans automatiquement, alors là c'est peut-être la question un peu moderne qu'on se pose à soi-même, sans tomber automatiquement dans, l'électronique ça va être juste un mélange spectral comme on faisait dans les années 80-90. Ça me convient plus non plus. Je pense que l'électronique doit avoir son autonomie par rapport au tissu orchestral, comment il peut l'avoir, voilà. Mais ça, ce sont des questions musicales éternelles, je dirais, sont des vieilles questions que l'électronique n'était pas là avec Wagner, mais j'ai l'impression de me poser souvent des questions très semblables à celles que Wagner pouvait se poser dans certains domaines.
Le cycle est né comment et qu'est-ce qui vous a amené sur ce cycle? Est-ce que vous aviez l'idée au départ du cycle?
Pas du tout. C'était une commande et d'une pièce d'orchestre pour l'orchestre philharmonique d'Oslo. Et donc, je me suis aperçu que très vite, j'avais essayé d'organiser la pièce en partie libre, partie très contrainte. Et les parties contraintes sonnent très librement, les parties libres, quelquefois, sonnent très carrées. Et donc, je me dis, j'avais fait une pièce qui s'appelait Signature en trompe-l'œil dans les années 90, c'était un peu la même idée. Comment on peut donner l'impression que quelque chose est contraint alors qu'il ne l'est pas, et l'inverse. J'adore ce genre de tromperie, de duperie musicale. Et donc, je me suis aperçu qu'une fois que la pièce était écrite, enfin, au fur et à mesure que la pièce était écrite, c'était toujours tour à tour, contraint, pas contraint, par groupe, par grand orchestre, par groupe, orchestré par groupe, orchestré de façon spectrale en croisant les pupitres, etc. Je me dis, mais c'est tout le temps comme ça, voilà. Alors qu'il n'y a qu'un motif, un genre de gestalt qui soutient toute la pièce, très minimal, matériau très minimal, et à côté de ça, voilà. Je me dis, mais si j'appelais tour à tour, c'est vraiment ça. Et une fois que j'ai fini la pièce, je me dis, mais je peux pas en rester là, parce que c'est dit du tour à tour, ça pourrait être un tour à tour sur 3 volets, par exemple. On pourrait imaginer qu'on revienne à autre chose après, qu'on y retournerait, genre de grande ABA prime bizarroïde, un peu la question que je me suis posée. Et donc, je me suis dit, on va y réfléchir. Et dès que j'ai eu une commande d'orchestre de plus, j'ai pas hésité une seule seconde. Et en fait, j'ai fait le troisième volet après le premier, qui s'appelle Les Rémanences, parce que tout ce qu'on a entendu va revenir en bloc. Et ce qui est intéressant, c'est quand j'ai fait le deuxième volet, là, pour l'IRCAM et l'Orchestre de Radio France, tout ce qui est dans les rémanences, qui devrait être ce qu'on retient de ce qui est arrivé, je l'ai réintroduit dans la seconde partie. En fait, c'est un jeu de, c'est un puzzle formel, donc c'est, et le seconde partie évidemment plus détendue parce que la pièce est sportive, vraiment sportive à jouer. C'est très rythmique et très ensemble. Et c'est, en fait, on s'imagine pas, mais c'est pas facile de jouer ensemble pendant une heure pour un orchestre tout le temps. C'est toujours au rendez-vous rythmique sur le plan de la tension nerveuse. C'est un truc, on voit bien le Sacre du Printemps, c'est une pièce qui a eu à ses débuts un nombre de répétitions incalculable. Et maintenant qu'on travaille avec des répétitions beaucoup plus restreintes qu'à cette époque-là, en tous les cas pour le, c'était dans le cadre du ballet qu'il y avait des répétitions. J'ai bien vu qu'avec l'opéra, c'est pareil, on répète plus. Mais dès qu'on est dans le domaine purement orchestral, il faut débrayer très vite, aller très vite. Et donc, la tension des musiciens est très, très grande. Donc, le deuxième volet, il est un peu plus détendu au niveau orchestral. Il y a beaucoup de matière, mais beaucoup plus lente, beaucoup plus tranquille. À la fois parce que musicalement, on en avait besoin. Le tour à tour le suggérait. Mais à la fois, les musiciens et le chef vont pouvoir, non pas se reposer, ce serait un peu bête de dire ça, mais pouvoir relaxer un poil avant d'attaquer le troisième mouvement qui est le plus long et le plus violent à jouer, j'entends.
Donc une forme de symphonie, presque, on pourrait dire, mais en trois mouvements.
Comme à l'intérieur, c'est un genre de puzzle aussi. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça. En fait, c'est plutôt des épisodes qui du premier volet qui se retrouvent dans le troisième mais à l'envers ou en mouvement contraire ou réorchestré et puis réinjecté. Donc c'est difficile de, pour moi-même c'est difficile de savoir comment c'est fait si j'y réfléchis pas 5 minutes. Ouais, je sais pas comment on pourrait appeler ça d'ailleurs, à la limite on s'en fiche. J'appellerais ça plutôt un concerto pour orchestre en gros, si on devait trouver un titre en plus ancien. Parce que c'est toujours là qu'il y a des grands passages cordes seuls, pratiquement seuls, où il y a quelques. Après, c'est les cuivres qu'on a là dans le passage, dans la partie électronique. Il y a même une extirpation de certains groupes qui vont être électronisés, que j'ai simulé en studio et qui ressortent du lot comme ça pour les entendre dans les haut-parleurs. Donc en fait, je me suis posé la question vraiment qu'est-ce qui est groupe, pas groupe, tout en gardant une écriture très serrée comme dans la musique spectrale où ça se mélange sans se mélanger. Enfin, vous connaissez mon obsession. J'aime bien que ça se mélange, mais qu'on reconnaisse pas non plus. Que ce soit entre la perception électronique et la perception instrumentale. Donc voilà, c'est un peu ça l'objet aussi de la partition.
C'est un petit peu la manière qu'a eu Bartok aussi de faire son concerto pour orchestre. Et c'est peut-être une forme qui a remplacé la symphonie.
Je sais pas si elle a remplacé, mais je trouve ça intéressant comme proposition. En fait, partir de cette idée-là, au bout d'un moment, je suis parti de cette idée-là, ça donne beaucoup de liberté d'orchestration. Ça permet, une fois de plus, de réinjecter des types d'orchestration différents dans un même espace. C'est-à-dire orchestrer par groupe, tel qu'on le faisait à une époque, ça marche, et ça peut être dramatiquement être fort. Dans l'opéra, vous en parliez tout à l'heure, je me suis amusé à réécrire les cuivres en les doublant beaucoup, comme on fait dans l'écriture plus ancienne. Et je me suis repenché sur cette question que je ne faisais pas. À cause des micro-intervalles et tout, on peut pas doubler les instruments. Là, je me suis dit, bon, on va à des endroits, je vais tempérer et je vais doubler les pupitres pour retrouver des côtés gras des cuivres tels qu'on les trouve dans les vieilles symphonies allemandes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce son-là. Je me suis amusé à le faire 2-3 fois dans l'opéra. C'est d'une efficacité à mourir. Donc voilà, c'est un peu ça que j'essaie de faire maintenant dans l'orchestre. C'est essayer de faire un genre de synthèse personnelle. J'ai pas de prétention là-dessus. Hein. Un genre de synthèse personnelle entre ce que je sais de l'orchestre ancien, ce que je sais de l'orchestre plus nouveau, et voir comment on peut faire en sorte que ça se mélange sans qu'il y ait d'hiatus stylistique. Ça, c'est passionnant, en fait. Ça, c'est un type de boulot passionnant. Comment il n'y a pas d'hiatus stylistique en utilisant des techniques d'orchestre un peu différentes? Tempéré, pas tempéré, écriture par groupe, écriture pas par groupe, écriture solistique de certains instruments, écriture totalement spectrale où on entend que de la fusion. Voilà, c'est un peu ça l'objet aussi du boulot orchestral qu'il y a là-dedans.
Et comme on est dans le festival Manifeste, vous avez introduit un peu d'électronique.
Alors, je l'ai pas fait. Non, alors là, c'est pas du tout vrai. J'ai tout de suite pensé, quand j'ai fini le troisième volet, quand j'ai fini le premier volet, j'ai tout de suite pensé que la partie centrale, ce serait bien qu'elle sorte de l'espace stéréo de l'orchestre. Donc en fait ça n'a pas été écrit pour le Festival Manifeste au début, c'était un projet que j'avais fait avec Radio France. En fait j'avais une commande Radio France d'orchestre et j'ai tout de suite appelé Franck Malenner en lui disant écoute voilà, je te fais écouter les deux premiers volets. J'aimerais vraiment que ça sorte de la scène, le son à cet endroit-là, parce que genre une heure d'orchestre avec l'orchestre figé au milieu, ça me plaisait pas, enfin, tout simplement. Et donc il m'a dit mais c'est une très bonne idée, et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Et c'est pas parce que c'est Manifeste j'ai mis l'électronique, c'est parce que je voulais de l'électronique que ça passe à Manifeste. Voilà, donc c'est quand même plus sympa. Déjà j'avais demandé à Monaco, à Monte Carlo de le faire, hein, ça, l'électronique. Et comme elle m'a été refusée, C'était pas un concert où il y avait ça. Refusé gentiment. C'est Marc Monet qui m'a dit non, on peut pas. Donc c'est Franck Manelier qui m'a dit si. Mais écris donc le troisième volet pour Monte Carlo. Tu reviendras au second pour Manifeste. Et en fait, j'ai écrit à l'envers. Et je l'en remercie parce que c'est une très bonne idée en fait. J'étais un peu bloqué. Je voulais faire ça chronologiquement. Une fois qu'il m'a dit mais fais-le autrement, ça paraît con, mais c'est vachement bien comme proposition. Du coup, j'ai interverti les mouvements et maintenant je profite de ce que j'ai fait dans le troisième mouvement pour alimenter le second, ce qui est quand même pas mal. Donc, non, c'est vraiment parce que c'est un désir, un gros désir, honnêtement. Sinon, ils mourront. Je le dis, ça peut être écrit.
Et la question qui me vient aussi, c'est, il y aura un enregistrement ?
Alors, normalement, on devait faire un enregistrement, vous allez rire, mais moi, ça me fait pas rire. On devait faire un enregistrement bout par bout pour faire un enregistrement vraiment CD, mais mis en ligne. Parfait, tout ça a été annulé, dont avec une répé aussi qui a sauté pour des raisons techniques. Donc tout ça va tomber à l'eau. Donc je suis très mécontent, mais on va faire général et concert. Voilà. J'espère qu'on fera un peu de montage pour que ce soit. Bon, j'ai un grand chef, j'ai Jean de Royer au pupitre. Il dirige tellement bien ma musique et la musique des autres d'ailleurs, que je suis pas très inquiet. Mais on avait des conditions au début là, absolument énormes. On enregistrait bout par bout comme pour un CD. Alors évidemment, comme on a perdu un peu de répé, on peut pas l'enregistrer bout par bout parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà, et ça c'est pour des problèmes de technique, de montage, puisque le nouvel auditorium de Radio France, la nouvelle grande salle, ne possède pas de haut-parleurs et choses comme ça, donc on est obligé d'implanter tout un système de 18 haut-parleurs pour nourrir un peu cet espace gigantesque. Donc on perd une journée, et cette journée c'était des répétitions. Pour une fois qu'un orchestre me donne autant de répétitions, on est obligé de renoncer à une répétition, et ça je le vis très mal à vrai dire, parce que c'est très dommage.
Oui, donc on a fait une nouvelle salle d'orchestre, mais qui n'avait pas les conditions du 21e siècle.
À vrai dire, je comprends pas bien ces salles d'orchestre où on est derrière l'orchestre, parce que quand il y a une pièce concertante, on n'entend pas le soliste. C'est bien pour mettre le chœur à l'arrière, mais voilà. Et en plus, pour l'électronique, c'est très difficile à gérer, parce que l'ouverture de l'espace, qui était mon rêve dans la seconde partie du cycle, et bah, il va s'ouvrir comment ? À l'arrière, devant, sur les côtés ? Alors, comme je ne suis pas Michael Jackson, la salle ne sera pas pleine. Donc je pense qu'en mettant tout le monde devant, ça fera déjà pas mal de monde. Si on a 500-600 personnes de face, je pense qu'on profitera bien de l'espace. Mais c'est vrai que ça nous pose des problèmes de logistique assez importants, l'IRCAM là, en ce moment. Les gens de l'IRCAM sont formidables parce qu'ils réfléchissent beaucoup à la façon d'implanter. Mais du coup, ça alourdit beaucoup aussi le patch électronique parce qu'il faut assigner à plein de haut-parleurs des choses qui n'étaient pas prévues au début. J'ai compté 6 points, comme dans une salle à peu près normale, 6-8 points. Sur des grandes salles, c'est faisable. Là, on est obligé d'avoir des points partout parce que on va perdre le son. Si on spatialise un peu, on va perdre le son en cours de route. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais j'avoue que je comprends pas. Je préfère de loin les salles de face. J'en parlais avec Manouri il y a deux jours. Il m'a dit exactement la même chose. Voir le chef de face, c'est joli quand on est à l'arrière. C'est vraiment sympathique. Mais on prend les corps dans la figure. On n'entend pas les solistes devant. C'est une aberration. Il faudrait écrire pour des salles comme ça. Mais quand on écrit à sa table pour une salle de concert qu'on imagine faciale, dès qu'on peut tourner autour, le pauvre public qui est derrière, c'est pas toujours gratifiant. Hein. Donc c'est beau architecturalement, mais je pense pas que ce soit très efficace, moi, honnêtement.
Et quels sont vos futurs projets ?
Alors là, je tente d'écrire une pièce pour l'ensemble recherche, parce que évidemment, comme je suis en retard tous azimuts, voilà. Donc j'écris une pièce pour l'ensemble recherche et qui m'a posé une colle. C'est ils ont enlevé le trio recherche, qui est le trio de cordes qu'il y a dedans, parce qu'ils ont tellement de pièces pour cordes. Et qui savent que j'aime les bois à la percu, ils m'ont mis corde, vent, percu, piano. Donc j'ai préparé le piano pour essayer de trouver des couleurs, etc. Mais c'est vrai que j'en bave, parce que c'est pas évident en fait. C'est pas un effectif que j'avais imaginé en ce moment. Et puis j'écris une pièce pour l'ensemble de Tel Aviv, qui est un ensemble formidable, à la limite du jazz rock, très étrange. Deux quatuors à cordes pour Arditi et Diotima. Et puis une pièce pour l'ensemble spectral ensemble de Belgique. J'ai 6-7 pièces à écrire là. Voilà. J'ai un autre projet d'opéra de chambre, voilà, mais je peux pas en parler, c'est trop tôt.
C'est secret.
Non, mais si ça se casse la gueule, je vais pas le dire. Mais ce sera avec Tanguy Viel toujours, avec qui je suis devenu très ami. Et on a envie de se repayer le luxe. Et si on le fait, ce sera une production parisienne bien faite, je pense que ce sera super. La Biennale de Lyon m'a proposé ça aussi. Donc on va voir si on peut pas joindre tous nos efforts pour faire un projet. Mais là, je partirai sur 7-8 musiciens électroniques et la production de chanteurs. Quelque chose qui soit un truc de crise, comme l'histoire du soldat était une pièce de crise. Qu'on puisse déplacer. J'en ai marre des gros machins qu'on très cher. J'adore ça, mais en ce moment, c'est compliqué. Voilà. Donc il faut trouver des écritures de crise. Il n'y a pas à tortiller.
Très très bonne conclusion. Merci Philippe.
Merci beaucoup.